La collapsologie, une théorie réactionnaire. Des personnalités, dont des scientifiques, se revendiquent aujourd'hui de la collapsologie, c'est-à-dire de la théorie selon laquelle l'effondrement de la société humaine telle que nous la connaissons est possible, voire inéluctable. Ils ne voient comme solution qu'un retour en arrière qui permettrait d'éviter ou du moins de retarder cette fin inexorable. L'écologiste Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement de 2001 à 2002, prévoit par exemple la fin de la civilisation pour 2025-2030 et se prépare à survivre dans sa maison en Bretagne. Deux scientifiques, Pablo Servigne, ingénieur agronome, et Raphaël Stevens, éco-conseiller, connaissent un certain succès avec leur ouvrage « Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes » 2015. Ils y mettent en relation les différents aspects de la crise de civilisation, climatique mais aussi économique. Les uns et les autres s'appuient certes sur des données crédibles, sur les rapports du GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui affirme que la température moyenne augmente à cause de l'émission de gaz à effet de serre, produit de l'utilisation du gaz, du pétrole et du charbon dans les activités humaines. Il souligne que les effets des dérèglements climatiques sont d'ores et déjà perceptibles. D'après l'ONU, il pourrait y avoir 1 milliard de réfugiés climatiques d'ici 2050. L'eau douce commence à manquer dans certaines régions de la planète, et les effets de la pollution s'y ajoutent. D'après plusieurs études, une 6e extinction massive d'espèces animales et végétales serait engagée. Enfants et adultes sont contaminés par des produits polluants présents dans l'environnement. Cela permet aux collapsologues de conclure, citation, « Nous disposons aujourd'hui d'un faisceau de preuves et d'indices qui suggèrent que nous faisons face à des instabilités systémiques croissantes qui menacent sérieusement la capacité de certaines populations humaines, voire les humains dans leur ensemble, à se maintenir dans un environnement viable. » Fin de citation. À partir de ce constat, ils défendent la thèse selon laquelle nous allons vivre au cours du siècle à venir l'effondrement de la civilisation, c'est-à-dire citation, le processus à l'issue duquel les besoins de base ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Fin de citation. Il qualifie notre société de thermo-industrielle pour montrer sa dépendance au pétrole et autres énergies fossiles. Il défend l'idée que l'humanité sera incapable de prendre des mesures pour stopper ou limiter les diverses pollutions qui en découlent. Ils partent du postulat que l'humanité a toujours cru à la possibilité de disposer d'énergie en quantité illimitée. Selon eux, l'humanité serait incapable de combattre les crises écologiques et économiques annoncées, car l'inertie des comportements individuels empêcherait toute prise de conscience et toute évolution radicale. Leur solution serait qu'une fraction de l'humanité se prépare aux catastrophes annoncées et adopte un comportement basé sur l'entraide et la réduction de la consommation. Pour limiter le réchauffement climatique et ses conséquences dramatiques, il prône une évolution divisant par 6 le niveau de vie global. Le constat de l'incapacité des gouvernements à prendre des mesures pour sortir la société de sa dépendance des énergies fossiles les rend fatalistes. Parmi les tenants de cette vision fataliste de l'avenir de l'humanité, d'autres mettent plus ouvertement en cause la surpopulation, comme le font aussi les tenants de la décroissance. C'est par exemple le cas des 15 364 scientifiques de 180 pays qui ont publié en novembre 2017 un cri d'alarme sur l'état de la planète et qui ont mentionné la surpopulation comme un problème, sans toutefois en faire une question centrale. L'astrophysicien Jean-Loup Berthaud s'exclame, citation, « Devant le désastre à venir, j'ai été paniqué. Arrêtez de faire des enfants, de brûler des carbones fossiles. » Fin de citation. À l'entendre, les dangers qui menacent la civilisation viennent avant tout de la natalité, donc des pays pauvres. Il ajoute d'ailleurs que les rejets de dioxyde de carbone de l'Europe et des États-Unis, qui étaient déjà au plus haut, n'augmentent plus, contrairement à ceux du reste du monde. Il faudrait donc que les habitants des pays les plus pauvres continuent à vivre dans le dénuement, et aussi qu'ils cessent de faire des enfants, car les habitants des démocraties n'accepteront pas de entre guillemets, se serrer la ceinture, et les habitants des pays pauvres seront les premières victimes du réchauffement climatique. En les contraignant à ne pas faire d'enfants, on évitera aussi l'immigration, tout aussi intolérable aux yeux de ces pseudo-scientifiques réactionnaires. La surpopulation, une vieille lune. L'idée selon laquelle la croissance de la population se heurterait aux limites de la planète a été mise en avant dès 1682 par l'économiste anglais William Petty. En se basant sur la Bible, à partir de la croissance des générations depuis Adam et Ève, il chercha à calculer la population mondiale maximale. Il fixa la fin du monde au moment où la population mondiale atteindrait 2 habitants pour un demi-hectare, au bout de plus de 7680 ans, pour une population de 10 milliards d'êtres humains. Aussi farfelu que fut son recensement, Petty partait au moins de l'hypothèse que l'ensemble des peuples formait une seule et même humanité. La révolution industrielle, précédée de l'expropriation des paysans, plongea dans le plus complet dénuement des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui se retrouvèrent exclus de la société. Le pasteur anglican Malthus, 1766-1834, à l'origine des théories sur la surpopulation, pensait avoir mis en lumière, citation, « la tendance constante qui se manifeste dans tous les êtres vivants à accroître leur espèce plus que ne le comporte la quantité de nature qui leur est portée. » Fin de citation. Il séparait la population en 3 classes. Les propriétaires fonciers qui vivaient de leur rente, les fermiers et artisans et la classe des travailleurs. Or, la démographie n'était pas la même parmi ces classes sociales. Pour éviter la dispersion de leurs richesses, les riches et même les artisans ou fermiers avaient intérêt à limiter leur progéniture, du moins celle qu'ils reconnaissaient. Les travailleurs, qui en étaient réduits à vivre au jour le jour, avaient des familles plus nombreuses. Malthus en concluait qu'il ne fallait pas aider les pauvres, sous peine de les voir se reproduire sans limite. Il donnait ainsi une justification morale à la vision des classes possédantes, à leur ordre social. La misère effroyable dans laquelle se débattaient les familles de travailleurs ne venait pas de l'exploitation, mais de leur fâcheuse manie de faire plus d'enfants qu'ils ne pouvaient en nourrir. Et ce sont les mêmes inepties que l'on entend revenir dans chaque situation de crise et qui sont aujourd'hui propagées par de pseudo-intellectuels face à la crise écologique. À l'époque de Malthus, les progrès de la production agricole ont réfuté ces thèses. Le développement des rendements, notamment grâce à l'utilisation d'engrais minéraux, a permis de faire baisser le prix des aliments de base et de nourrir plus de monde. En Grande-Bretagne, entre 1800 et 1900, la population passa de 10 à 40 millions d'individus. Le pays augmenta sa production agricole et importa les céréales nécessaires à la consommation. Après la Deuxième Guerre mondiale, il était même en mesure de produire suffisamment pour sa propre population et d'exporter. Depuis la Révolution industrielle, la sous-alimentation ou les famines qui frappent régulièrement différentes régions du monde ne sont pas dues à un manque de nourriture. Plusieurs fois, comme lors de la crise de 1929, c'est même la surproduction qui a paradoxalement engendré une augmentation de la sous-alimentation. Et alors que, depuis 2015, on connaît de nouveau une augmentation du nombre de personnes sous-alimentées dans le monde, la production alimentaire n'est pas en cause. La crainte d'une surpopulation mondiale n'a pour autant jamais disparu. En 1968, le biologiste Gareth Hardin, dans son livre « La tragédie des communs », partait d'une fable pour illustrer son propos. Un pâturage était mutualisé par des éleveurs cherchant à prospérer, mais ces derniers, par leur comportement individuel, finissaient par ruiner ce bien commun. Cette histoire était censée démontrer l'existence d'un mécanisme irrésistible qui pousserait les individus à se reproduire jusqu'à détruire leurs ressources naturelles. Hardin recommandait donc soit un contrôle de la reproduction humaine par l'État, soit la création d'un droit à enfanter, monétisable et échangeable. Sa théorie légitimait par ailleurs la mainmise sur toutes les richesses de la nature qui, sans propriétaire, auraient été gaspillées. En 1972, 4 scientifiques publièrent un ouvrage intitulé « Les limites à la croissance », commandé par le Club de Rome, un groupe de réflexion international réunissant industriels, scientifiques, hauts fonctionnaires internationaux et économistes pour réfléchir aux destinées de leur monde. Basé sur des simulations informatiques définissant les conséquences de la croissance économique à plus ou moins long terme, le rapport disait, citation, « Les ressources naturelles seront épuisées dans le siècle si la croissance démographique et économique ne s'arrête pas. » Fin de citation. Année 1950, politique nataliste des pays riches, contrôle des naissances imposées aux pays pauvres. Lorsque dans les années 1950, la mortalité infantile baissa dans les pays du tiers-monde, l'accroissement de la population fut présenté comme l'un des problèmes cruciaux de la planète, en particulier par les représentants des pays impérialistes. Il ne s'agissait pas pour eux de réduire la natalité dans les familles chrétiennes des pays riches, qui dépassaient 3 ou 4 enfants, la forte natalité étant souvent favorisée par une politique d'allocation familiale. C'est toujours l'accroissement de la population des pays pauvres qu'ils dénonçaient. L'inquiétude au relent raciste devant cette entre guillemets explosion démographique faisait la une des journaux. Dans les années 1960, un fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, FNUAP, finança des campagnes de planning familial et d'éducation à la contraception. De nombreuses ONG s'attribuèrent un rôle dans cette campagne qui avait plus à voir avec les inquiétudes des impérialistes quant au maintien de leur hégémonie qu'avec la lutte pour le droit des femmes à contrôler leur sexualité et leur fécondité. De son côté, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, poussait un cri d'alarme. Si la population augmentait, l'agriculture ne suivrait pas. Avec le premier choc pétrolier en 1973, le FMI et la Banque mondiale conditionnaient leurs prêts à la réduction de la fécondité. En Inde, le gouvernement imposa la stérilisation forcée de millions de femmes et d'hommes. Au plus fort de cette campagne, en 1976-1977, 8 300 000 Indiennes et Indiens en furent victimes. En Chine, le gouvernement imposa en 1979 la politique de l'enfant unique. En réalité, les démographes savent que la fécondité baisse avec l'élévation du niveau de vie. L'ONU prévoit aujourd'hui une augmentation de moins en moins forte de la population mondiale qui atteindrait 9,7 milliards d'individus en 2050, puis sa stagnation. Ce ne sont que des prévisions, mais elles s'appuient sur le fait que, même dans les pays où des politiques de réduction de la fécondité aussi violentes que celles de l'Inde ou de la Chine n'ont pas été menées, cette baisse a eu lieu. Alors qu'en 1950, dans le monde, les femmes avaient en moyenne 4,7 enfants au cours de leur vie, ce taux est passé à 2,4 enfants en 2017. En Amérique latine, la fécondité est de 2 enfants par femme. En Asie, de 2,1. En Afrique, elle est de 4,5, mais diminue également. Si l'argument de la démographie revient aujourd'hui, c'est essentiellement sous l'angle de l'impact écologique et non sous celui de la famine. La démographie de l'Inde ou de la Chine est présentée comme une menace. En s'industrialisant, en permettant à une fraction de leur population d'accéder à un niveau de vie comparable à celui des pays riches, ces pays émettraient trop de gaz à effet de serre, pollueraient et détruiraient l'environnement. Tous les arguments anticonsuméristes sont ainsi utilisés. Les moyens mobilisés pour obtenir l'énergie essentielle au développement d'un pays, voire à la vie des individus, sont mis en cause. Ainsi, les centrales à charbon chinoises sont pointées du doigt, de même que les comportements des paysans pauvres qui participent à la déforestation pour s'alimenter et construire leurs habitations. Les scientifiques qui alertent sur les dangers qui guettent l'humanité ont bien sûr raison de le faire. Mais ceux d'entre eux qui professent des idées malthusiennes ou néo-malthusiennes mettent en avant des idées réactionnaires. Une majorité de ces scientifiques dénoncent pourtant l'économie basée sur le profit, l'action des grands groupes capitalistes. Mais ils se refusent à remettre en cause l'organisation capitaliste de la société. Cela les conduit à négliger le fait que l'organisation sociale repose sur la mainmise de la bourgeoisie sur l'économie. Ils ignorent le fait qu'une classe sociale, la classe ouvrière, aurait les moyens de la renverser pour construire une société dont les choix en matière de production et donc d'environnement n'obéissent plus à la loi du profit individuel. C'est ce qui conduit les défenseurs du malthusianisme à placer l'avenir de l'humanité sur le terrain de la survie d'un petit nombre ou de la lutte contre la consommation. Ils prônent la réduction du nombre d'êtres humains ou des mesures fiscales contraignantes contre la consommation, toujours au détriment des plus pauvres. Pourtant, la centralisation des moyens de production, aboutissement du développement capitaliste, serait un formidable levier pour modifier rapidement les choix économiques, les comportements, à condition de les soustraire à la loi du profit. L'utilisation des moyens de communication, de la publicité, non plus pour vendre, mais pour permettre d'échanger et de décider des choix à faire dans la production et la consommation, en toute conscience et avec pour seul objectif d'assurer le bien-être et l'épanouissement de l'ensemble de la société, pourrait préserver son avenir et celui de la planète. L'impact de l'homme sur l'environnement. L'ensemble du vivant a un impact sur l'environnement. Les animaux le modifient par leur seule présence, et la plus insignifiante des modifications peut favoriser une espèce contre une autre et engendrer des changements importants. Cependant, ces modifications sont très lentes. L'homme a modifié son environnement dès les débuts de l'humanité, et en particulier avec la révolution néolithique, lorsque le développement de l'agriculture a poussé à la déforestation. Avec la révolution industrielle, ces bouleversements ont changé d'échelle. Engels écrivait dans « Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme » 1876, citation, « Cependant, ne nous flattons pas trop de nos victoires sur la nature, elle se venge sur nous de chacune d'elles. Chaque victoire a certes en premier lieu les conséquences que nous avons escomptées, mais en second et troisième lieu, elle a des effets tout différents, imprévus, qui ne détruisent que trop souvent ses premières conséquences. » Il ajoutait « Les capitalistes individuels qui dominent la production et l'échange ne peuvent se soucier que de l'effet utile le plus immédiat de leur action. Et même cet effet utile, dans la mesure où il s'agit de l'usage de l'article produit ou échangé, passe entièrement au second plan. Le profit à réaliser par la vente devient le seul moteur. » Fin de citation. Malgré des connaissances scientifiques plus solides qu'au XIXe siècle, qui auraient pu permettre aux hommes de mieux appréhender les effets de leurs actes, la société capitaliste n'a pas fait preuve de plus de prudence. Un siècle et demi après ce texte, les capitalistes ne sont pas plus soucieux des biens collectifs, et leur économie est toujours aussi aveugle. Pour les tenants de la collapsologie, le problème est ailleurs, dans la nature même des hommes, inconscients des dégâts qu'ils peuvent provoquer. Jared Diamond, professeur de géographie à l'Université de Californie et auteur de l'ouvrage « Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie » 2005, sur lequel s'appuient les collapsologues, parle de sociétés humaines écocides, c'est-à-dire incapables de limiter leur impact sur l'environnement jusqu'à mettre en péril leur propre civilisation. Il tient pour preuve de ses thèses l'autodestruction de la civilisation maya ou la quasi-disparition de la population de l'île de Pâques. Mais les interprétations proposées par Diamond ont été contestées. Il explique ainsi par la surpopulation du pays le génocide rwandais, de même que la situation catastrophique d'Haïti. La notion d'écocide est d'autant moins convaincante que Diamond décrit l'ingéniosité déployée par les hommes de nombreuses civilisations pour utiliser au maximum le potentiel de leur milieu tout en veillant à sa préservation. Les hommes ne sont pas des prédateurs inconscients des conséquences de leurs actes. Cette inconscience est plus souvent propre aux classes dominantes. Dès l'ascension de la bourgeoisie, des pollutions localisées mais de très grande ampleur sont apparues. Par exemple, les mines d'argent de Nouvelle-Espagne, au XVIIe et XVIIIe siècle, consommaient en moyenne 600 tonnes de mercure par an, qu'elles dégageaient en vapeur. Avec la révolution industrielle, ces pollutions ont pris une toute autre ampleur. Les fumées noires rejetées par les machines à vapeur fonctionnant au charbon, les produits toxiques rejetés dans les sols et les rivières, atteignirent un tel niveau qu'ils menacèrent la santé de tous. De nombreux conflits eurent lieu entre les populations et les pouvoirs en place, complices des industriels. Ces batailles ont été perdues. Les pouvoirs politiques, les grands patrons et les scientifiques ont le plus souvent, main dans la main, imposé ces pollutions au nom du développement économique et de la concurrence. Les États des pays riches ont certes parfois fini par imposer quelques mesures contraignantes aux industriels. Mais bien souvent, une pollution visible a été remplacée par une autre, invisible, et surtout les activités les plus polluantes ont été délocalisées vers les pays pauvres. Cependant, aucune population n'est restée sans réaction face à la violence de la bourgeoisie et aux conséquences de l'exploitation des hommes comme des terres et du sous-sol. L'URSS aurait pu montrer une autre voie. Il lui fallait s'approprier le niveau de technologie des pays impérialistes, et elle le fit dans une situation désespérée. Avec la victoire de la bureaucratie stalinienne, qui parasitait l'économie socialisée à son profit, les profits techniques et industriels furent détournés. Isolé, l'URSS se retrouvait face à la menace constante des pays impérialistes, qui contraignaient eux aussi ses choix. Ses dirigeants ne se préoccupèrent pas plus de l'environnement que de la condition ouvrière. La dictature stalinienne empêcha toute adaptation des plans d'industrialisation et toute réflexion sur leurs conséquences à long terme, montrant par là même que la planification ne suffit pas si ce ne sont pas les intérêts collectifs qui la régissent. Se débarrasser du mode de production industriel ou du capitalisme. En choisissant de qualifier l'organisation sociale de entre guillemets civilisation thermo-industrielle, les auteurs de Comment tout peut s'effondrer détournent l'attention du système économique pour la focaliser sur la dépendance aux énergies fossiles et sur leur épuisement possible. Or, à chaque fois, l'épuisement des réserves pétrolières annoncées à plusieurs reprises a été repoussé. Les nouvelles techniques de détection ont encore permis de découvrir de nouveaux gisements. Certes, l'énergie nécessaire à leur extraction les rend de moins en moins rentables. Mais à coup de subventions étatiques de toutes sortes, avec la possibilité d'emprunter des sommes colossales à faible taux, l'affaire reste rentable pour les compagnies pétrolières, d'autant qu'elles n'en assument pas les conséquences environnementales. Les intérêts des compagnies pétrolières, dont la devise est « après les prochains profits, le déluge », sont à l'opposé de ceux de la société. Mais toute la bourgeoisie raisonne de la même façon, et les gouvernements, s'ils professent aujourd'hui des préoccupations environnementales, n'en continuent pas moins à mettre à la disposition de leurs capitalistes tous les moyens de continuer à faire du profit, quitte à lui sacrifier les hommes et la nature. La marche à la guerre, puis les deux guerres mondiales elles-mêmes, ont été particulièrement propices à cette fusion entre les intérêts des capitalistes et la politique de leur État. Il en résulta une accélération de la destruction des équilibres écologiques après la Deuxième Guerre mondiale. L'industrie de guerre s'est développée grâce aux commandes d'État. Ses infrastructures, les progrès techniques qu'elle avait permis, ont modelé le développement technologique en temps de paix. Les nouvelles installations devaient être rentabilisées. La première usine de fabrication d'ammoniac, en 1913, était destinée à produire des explosifs nitrés. Cette production fut réorientée ensuite vers les engrais azotés pour l'agriculture. En sens inverse, cette fois, le zyklon B, utilisé pour les chambres à gaz, avait d'abord été un insecticide. Les tonnes d'agents orange déversés au Vietnam ont été utilisées dans l'agriculture. Une fois mis au point, ces nouveaux produits étaient livrés au secteur privé. L'industrie de l'aluminium, indispensable à la guerre, a trouvé des débouchés après la guerre en profitant de subventions étatiques, notamment dans la construction de logements, alors que sa production est toxique. Dans un autre domaine, les États ont choisi de promouvoir l'aviation civile après 1944, après que la guerre avait engendré un développement explosif de l'aviation militaire, ce qui s'est traduit, entre autres, par l'exonération de taxes sur le kérosène. Au-delà des dévastations et du recul qu'elles représentent pour toute l'humanité, les guerres et leurs préparations ont également englouti des masses d'énergie fossile et de produits chimiques. Le capitalisme, arrivé à l'âge sénile, de plus en plus financier et étouffant sous ses propres contradictions, demeure un système économique basé sur l'exploitation des hommes, qui va de pair avec celle de la nature. Dès les débuts de l'industrialisation, de nombreux économistes bourgeois, parmi lesquels Say et Ricardo, exprimaient leur admiration devant la richesse du sous-sol, constituée au cours des millions d'années et disponible pour l'industrie. Mais leurs contemporains n'étaient pas tous aveuglés par ces progrès. Marx expliquait, citation, « Dans l'agriculture moderne, de même que dans l'industrie des villes, l'accroissement de la productivité et le rendement supérieur du travail s'achète au prix de la destruction et du tarissement de la force de travail. En outre, chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement pour l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. Chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays, les États-Unis du Nord de l'Amérique par exemple, se développe sur la base de la grande industrie, plus ce process de destruction s'accomplit rapidement. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du process de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur. » Fin de citation. Marx n'en déduisait pas qu'il fallait limiter l'industrie et le progrès, mais qu'il était d'autant plus nécessaire de socialiser ses moyens de production pour permettre d'en mesurer pas à pas l'impact sur la nature et rendre compatible progrès technique, production de masse et gestion durable de l'environnement. Entre crise et période de prospérité, la question de la destruction de la planète a toujours été plus ou moins présente. Mais à chaque fois que des intellectuels se sont préoccupés de l'environnement, ils ont séparé les conséquences du développement de l'industrie et de l'agriculture, de la domination bourgeoise sur l'économie et de l'irresponsabilité et du gâchis qu'elle implique. Quel avenir est réservé à l'humanité? Les collapsologues répondent qu'il est déjà trop tard. Ils n'imaginent pas que la société humaine puisse être radicalement transformée sous l'effet d'une révolution sociale. Ils théorisent leur résignation en attribuant la catastrophe à venir à des caractéristiques qui seraient propres à l'humanité. En tant que communistes révolutionnaires, nous avons confiance dans les capacités de l'humanité à résoudre ces problèmes. Son histoire a largement démontré sa formidable capacité d'adaptation. La quête insatiable de connaissances et de moyens d'agir sur la nature est propre à l'humanité. Elle pourrait lui permettre de sortir de la crise qu'elle traverse. L'organisation sociale capitaliste est synonyme d'anarchie et de gâchis sans limite des ressources humaines et environnementales. Sous la domination du capital, les possibilités fantastiques de l'humanité sont entravées par l'exploitation, les inégalités et la violence des rapports sociaux qu'elle entraîne. Mais le capitalisme n'est pas la forme ultime d'organisation de la société, comme le conçoivent les collapsologues, pour qui la lutte des classes n'existe pas. Les exploités ont toujours lutté, et à plusieurs reprises, la classe ouvrière a ébranlé le système. Elle est en mesure de renverser la bourgeoisie et de bâtir une société libérée de la dictature du profit individuel. Les communistes révolutionnaires qui militent pour que la classe ouvrière prenne conscience de son rôle historique et renverse la domination capitaliste sont à l'opposé des collapsologues et de leurs théories funestes. La seule perspective d'avenir possible est du côté des travailleurs, du côté de la révolte des opprimés du monde entier. L'optimisme est du côté des révolutionnaires. 10 septembre 2019. Source : Pablo Servigne, Raphaël Steven, Comment tout peut s'effondrer, Seuil 2015. Revue Bioscience, le 13 novembre 2017. Conférence du 11 juin 2019, accessible sur Internet. Thomas Robert Malthus, Essai sur le principe de population, 1798. Rapport 2019 de l'ONU, Perspective de la population dans le monde. Karl Marx, Le Capital, livre 1.